Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire un truc de ouf. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés au podcast sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast ou Spotify. Si vous appréciez ce podcast, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner via votre application d'écoute favorite. Votre abonnement aide véritablement le podcast à se développer. Et plus vous êtes nombreux, meilleurs seront les invités. Un grand merci d'avance.
Hello, bonjour tout le monde, merci d'écouter The Bold Way. Aujourd'hui je suis avec Gigi Martin. Bonjour Gigi. J'adore Hello, quand les gens m'appellent Gigi. Alors comment je dois prononcer JJ? Oui JJ, je viens de Los Angeles mais j'adore Gigi. Gigi c'est plus italien non? Non, en Italie ils m'appellent JJ. C'est les Français qui m'appellent Gigi, c'est très mignon. Bon alors donc, qui es-tu JJ?
Who are you, JJ? Just call me Gigi, it's fine.
Yeah, okay. Appelle-moi simplement Gigi. Alors qui je suis? Je suis américaine, vivant à Milan depuis 23 ans. J'étais journaliste et en 2015, j'ai lancé ma propre entreprise appelée le Double J, qui a commencé par vendre du vintage.
While I was still a journalist, launched my own company called le Double J.
Le Double J, yeah.
And I started by selling vintage. I've been collecting vintage clothing.
Je collectionnais des vêtements et des bijoux vintage depuis mes années à New York. J'avais cette énorme collection et j'étais obsédé par le vintage. Je collectionnais toujours, j'allais tout le temps dans les petits magasins, à l'église, les boutiques caritatives, les marchés aux puces. Et puis, j'ai décidé de mettre en ligne tous ces vêtements en les montrant sur les femmes créatives de Milan, dont beaucoup que j'avais rencontrées au cours de mes déplacements en tant que journaliste. Mais souvent, je ne pouvais pas vraiment les interviewer parce que le magazine voulait toujours un article sur Giorgio Armani ou Donatella Versace. Enfin, la façon américaine, quoi. Donc c'était vraiment une opportunité non seulement de montrer les vêtements de femmes merveilleuses, mais aussi d'en offrir un aperçu des coulisses et de la façon dont ces femmes très chics et élégantes vivaient, s'habillaient, se divertissaient, dressaient leurs tables et décoraient leurs maisons. Et l'entreprise a commencé comme ça. D'accord, et quel était le public à l'époque? C'était un public américain? Je dirais que la plupart étaient américains, mais nous avions beaucoup de fans italiens et quelques fans anglais et certains français. Mais anglais de Londres, n'est-ce pas? Donc la Double J, ça représente quoi? Alors, ça vient de mon nom. Je m'appelle Jennifer Jane Martin. Et quand je suis arrivée à la maternelle, il y avait beaucoup d'autres Jennifer. À l'époque, il y avait plein de Jennifer, comme Jennifer Aniston, Jennifer Garner, enfin, toutes ces personnes. Mais j'ai reçu le surnom JJ de ma famille quand j'étais jeune. Et puis quand j'ai commencé le lycée, beaucoup de mes amis m'appelaient Double J. Et le « là » vient de Milan, où ils font souvent référence aux femmes à la troisième personne. Ils disent des choses du genre « Dove la JJ »,« Dove la Anna ». Ils utilisent ça presque comme un nom. Mais aussi, doublej.com était déjà pris, donc j'ai dû trouver autre chose. Donc ça, c'est la première règle pour démarrer sa propre entreprise, avoir toujours un deuxième plan. Il ne faut pas rester trop attaché aux choses et à quoi les choses doivent ressembler, car l'univers a d'autres projets pour vous. Si tu pouvais changer le nom de la marque... Tu le ferais ? Je pense que oui, parce que je n'aurais jamais imaginé avoir mon propre produit. Quand j'ai commencé, je pensais qu'on allait peut-être devenir le net-à-porter du vintage. Mais ensuite, j'ai réalisé très très vite que je n'avais qu'une seule pièce, une seule taille, je veux dire... Je savais que c'était le cas dès le départ, mais je n'avais pas réalisé à quel point ce serait difficile de réapprovisionner et d'aller chercher ces pièces. Parce que ce n'était pas de la revente de produits de la saison dernière, mais c'était du Yves Saint Laurent des années 70. C'est beaucoup de travail pour une seule pièce. Donc, tu es né en Californie, n'est-ce pas ? Oui, Pacific Palisades. Et quel genre d'enfance tu as eu ? Alors, je n'ai pas été bercé dans la mode. J'ai grandi dans une famille très athlétique. Ma famille adorait le plein air. Mes frères étaient très portés, volleyball, surf. Tout le monde était grand, blond, mon père chassait et pêchait, il nous emmenait camper souvent.
My dad was a hunter, a fisherman. He used to take us on these camping trips. We had a very
Ma mère m'habillait dans les habits de mes grands frères quand j'étais jeune. Je n'ai jamais eu de Barbie avant l'âge tardif de 9 ans, et ça, c'est après avoir passé 5 ans à insister. Donc, je n'ai pas vécu dans le monde de la mode. J'étais garçon manqué, pas parce que je le voulais, mais c'était juste l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais dès mon très jeune âge, je faisais attention aux autres mères qui étaient très à la mode. J'avais une grand-mère que je ne voyais pas souvent, mais qui avait l'habitude de porter beaucoup de bijoux sur mesure, rien d'important, mais j'étais attiré par tout ce qui brillait.
For those that like sparkle, it's exciting.
Que faisaient tes parents dans la vie ? Alors, ma mère vendait de la publicité pour un magazine local dans les Palisades. Mon père vendait de l'assurance vie. Mais quand mon père a contracté la leucémie quand j'étais jeune, ma mère a commencé à travailler avec lui. Donc, ils ont travaillé ensemble juste avant sa mort. Mon père est mort quand j'étais à l'université. J'avais 19 ans. Donc, c'est très intéressant parce que je pensais ne rien avoir en commun avec ma famille, mais j'ai réalisé qu'avec Double J, je passais mon temps à faire des campagnes de vente comme mes parents vendaient des assurances. Donc, tu me verrais, je vends nos produits, j'ai hérité ça d'eux, ça me vient très naturellement. Est-ce que tu pourrais me donner une leçon de vente ? Tu veux que je te vende quelque chose ? Alors, ce que j'aime dans ce pull, c'est que tu veux que l'imprimé du pantalon, tu veux que ça ressemble à une sorte de brocart vraiment amusant, fabriqué à 100% en Italie, sur les rives du lac de Côme, par l'un des plus anciens fabricants italiens, Menterosetta. Et nous avons tous ces partenaires formidables, dont beaucoup sont des fabricants italiens historiques. Mais ce qui est amusant, c'est que dans l'entreprise, tout est question de couleur et d'imprimé. Mais en même temps, tu ne veux pas que tout soit de l'imprimé. Donc, ce qu'on propose avec ce pull que tes auditeurs ne peuvent pas voir, c'est un basique que j'épice un petit peu avec une bordure en plume. C'est un classique avec un twist. Donc, les gens viennent nous voir pour ce genre de vêtements voyants et fun, mais on fournit aussi les basiques qui vont avec ça. Alors, je ne sais pas, c'est dur de vendre quand tu ne vas pas vraiment acheter le vêtement. C'est la première règle en vente, toujours dire la vérité. Donc, pas sûr que j'ai fait un bon boulot là. Non, c'était bien, mais ma question, c'était plutôt, quelle est la clé pour vendre ?
It's truly this. You have to believe in what you're selling.
Yeah. Il faut croire en ce qu'on vend. And I think that's what's so important. Et une fois que je suis enthousiasmé par quelque chose et que je pense que c'est vraiment une bonne chose, ce que nous essayons de faire chez Double J, c'est de vraiment fournir un produit qui a une fonction et une utilité. Donc, je fais des vêtements très accessibles que la plupart des femmes peuvent porter. Nous essayons de faire les choses pour les femmes grandes, les femmes un peu plus petites, les femmes rondes, les femmes plus minces, les femmes jeunes, les femmes âgées. On essaie de proposer une robe qui puisse vous accompagner du bureau au cocktail jusqu'au samedi matin avec des baskets et un pull. On essaye vraiment de donner un produit qui a beaucoup de valeur et d'utilisation. Et je veux que ce soit quelque chose qui suive véritablement la mission de l'entreprise, ce que j'appelle augmenter votre vibration. Donc il y a plein de moyens pour ça, mais un des plus importants, c'est par le bonheur, la joie, l'espièglerie. Donc souvent dans la mode, on voit ces mannequins renfrognés sur les podiums de ces marques qui vous rendent nerveux lorsque vous entrez dans leur magasin. Nous, on est de la mode feel good. Il s'agit de faire quelque chose qui est édifiant et qui élève vraiment votre vibration. Il y a tellement de façons différentes de le faire. La couleur a une fréquence, par exemple. Alors, peut-être pour poser la question un peu différemment, comment tu formes tes commerciaux ? Donc, demain, tu vas ouvrir un corner à la Samaritaine, non ? Comment tu les formes ? Comment tu les choisis ? Oui, donc c'est un peu plus délicat avec les comptes de gros. Parce que nous ne les employons pas directement. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de les former. Surtout avec les magasins dans lesquels nous opérons directement, qui se trouvent aujourd'hui à Milan et à Taormina en Sicile. Mais on a dû faire beaucoup de choses, beaucoup de travail là-dessus. Parce que ça ne vient pas naturellement aux vendeurs, surtout s'ils ont travaillé dans un autre environnement de vente au détail. On ne leur apprend pas à avoir un échange vraiment honnête et authentique avec les gens. Donc la convivialité est notre priorité. Et puis avoir cette volonté d'aller plus loin, de vouloir rendre service. Est-ce que je peux vous aider ? Et ne pas s'inquiéter non plus si quelqu'un n'achète rien. C'est pas grave. Il faut juste leur donner une expérience qui leur donne envie de revenir. Il s'agit donc vraiment de traiter les gens à un niveau humain et non comme une transaction. Quelles études tu as fait ? Rhétorique.
Rhetorica. Rhetorica.
Rhetorica.
Rhetorique, ok.
Yes, rhetorique. This is like, you know, like Aristotle.
Donc ça, c'était aux États-Unis, à Berkeley, non ? Oui, je suis allé à UC Berkeley. La rhétorique était une spécialité que beaucoup de gens souhaitant devenir avocats étudiaient. Parce que ça enseigne l'art de l'écriture, de la parole argumentative.
Okay.
J'ai donc suivi beaucoup de cours de prise de parole en public. D'ailleurs, j'ai échoué mon premier engagement de prise de parole en public. J'étais complètement engourdi, je me suis effondré totalement. Mais j'ai vraiment appris à écrire. J'ai toujours voulu être écrivain. Et j'ai réalisé, après avoir suivi quelques cours de droit et de pré-droit, que ce n'était vraiment pas du tout pour moi. Mais je suis resté dans la rhétorique. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à réaliser que je voulais faire quelque chose de créatif, quelque chose en rapport avec la mode. J'allais déménager à San Francisco et il n'y avait pas de mode à San Francisco à l'époque. Il y avait seulement Gap et c'était la seule marque basée là-bas. Tout était à New York. Et je ne savais pas comment me rendre à New York, donc j'ai choisi l'industrie qui s'en rapprochait le plus, à savoir la publicité, car il y avait beaucoup de créativité à San Francisco dans les années 90. Il y avait des agences, des boutiques très petites qui comptaient moins de 50 personnes. Et à l'époque, avec la publicité, Il y avait des choses très cool qui se faisaient. C'était vraiment radical et j'ai travaillé pour quelques agences incroyables et finalement, lorsque j'ai déménagé à New York, l'une des agences a obtenu le compte Tommy Hilfiger et j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là avec l'équipe de Tommy Hilfiger. Et à partir de là, j'ai été embauché chez Calvin Klein. Au service marketing, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu as appris là-bas? Ce qui est très intéressant quand je repense à mon histoire, c'est que je pensais devenir avocat, et donc j'ai suivi la voie de la rhétorique, et ils m'ont appris à parler et à écrire, et je me suis dit, oh, maintenant que je travaille dans le marketing et la publicité, je n'aurai jamais besoin de ça, et puis je suis devenu journaliste. C'était donc très utile à la fin. C'est intéressant de voir comment nos décisions, parfois, même à un niveau subconscient, nous conduisent dans la direction que nous sommes censés poursuivre. Donc même quand tu fais des choses qui ne semblent pas être à propos, c'est très intéressant d'apprendre. Donc chez Calvin Klein, ce que j'ai appris, premièrement, c'est que je suis définitivement pas minimaliste. J'étais la seule personne qui portait des vêtements vintage. Tout le monde était en noir et blanc. C'était dans les années 90. Non, j'y étais en 2000 et 2001. C'était le début de porno chic, non?
Porno chic and no, it was the beginning.
Yeah, I mean it was kind of even sort of no, that was the kind of end of that a little bit. I feel
c'était plutôt la fin de cette période. Kate Moss, ce truc grunge qui se passait dans les années 95-96, je pense. C'était après Caroline Bessette, elle n'était plus chez Calvin Klein quand j'y suis allé.
I sort of realized that, you know, what did I learn?
Et j'ai appris quelque chose d'assez important, parce qu'il y a tous ces jobs qui sont excitants, où il y a un véritable chemin de carrière, parce que j'ai été promu chez Calvin Klein. On est parfois très intéressé par les titres de poste, mais chez Calvin Klein, je ne me sentais pas très connecté à la passion.
Passion.
Et parfois, ce qu'on apprend d'un job, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Oui, et ça peut prendre du temps parfois. Oui, tout à fait. Et personnellement, je n'ai jamais rencontré Calvin Klein. Alors bien sûr, c'était le designer et il avait des milliers de personnes dans son entreprise, mais on ne le voyait jamais. Il interagissait avec 10 personnes. Et donc c'était très intéressant de travailler dans une entreprise de mode et d'avoir l'impression de travailler dans une banque. Et j'ai réalisé que maintenant que j'ai ma propre entreprise, il est très important d'impliquer tous les employés et de leur faire sentir comme des êtres humains. Et j'essaie d'être exposé à eux autant que possible. Combien de salariés tu as? 70 en ce moment. C'est en train de prendre de l'ampleur et à mesure que cela grandit, ça devient de plus en plus difficile, non? Alors, d'une certaine manière, ça devient beaucoup plus facile aussi. Au début, je faisais littéralement tout. Et tout le monde faisait tout, c'était le chaos au début. Alors maintenant, c'est assez incroyable d'avoir plus d'ordre et d'avoir des adultes. Parce qu'au début, tout le monde est un bébé, tu sais. Tout le monde vient de juste d'obtenir son diplôme, le stagiaire est ton directeur marketing, tout ce genre de choses vraiment drôles qui se passent dans un environnement de start-up. C'est assez chaotique pendant 5 ans. Je dirais que la plupart des start-up sont comme ça. On entre maintenant dans la 9e année, et c'est très intéressant parce que les deux premières années, j'avais une proposition commerciale très différente. Donc ça ne fait vraiment que 7 ans qu'on produit ce qu'on fait en ce moment. Et j'ai oublié ce que tu m'avais demandé. Alors je tournais autour de l'idée de comment trouver sa zone de génie. Comment on trouve ce à quoi on est bon dans notre trentaine ou quelque chose comme ça? Pour une personne ordinaire ou pour quelqu'un qui démarre sa propre entreprise? Pour les deux? D'accord. Alors, je viens d'écrire ce livre intitulé « Mama Milano » qui parle beaucoup de ça. Ça donne des conseils aux gens car ça parle de mes 22 premières années en Italie et de la façon dont, lorsque j'ai emménagé là-bas, j'étais très malheureuse. J'avais une attitude très négative. C'était vraiment une période très sombre et il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre. Donc tout ce livre raconte comment l'Italie est devenue mon premier professeur spirituel, un peu par inadvertance. Et donc j'ai dû apprendre à me rendre et à me laisser faire. Je me suis dit, tu sais quoi, ça ne se passera pas comme je le souhaite ou comme je l'ai prévu. Essaye de faire comme l'Italie le fait. Et c'était une énorme leçon. Parfois, ce que notre esprit nous dit que nous voulons faire, ça nous empêche de trouver notre génie. On entre vraiment dans son flux créatif que lorsqu'on lâche un peu les rênes. Et que tu as permis à ton moi supérieur d'entrer et de se connecter à cette sorte d'aspect divin, il faut vraiment laisser faire. La plupart des choses qui empêchent les gens de se lancer dans leur propre génie, c'est qu'ils se disent « je dois être directeur artistique ou directeur créatif ou PDG » et peut-être que les gens ne sont pas faits pour ça. Et peut-être que ce n'est tout simplement pas comment les choses sont mises en place pour toi. Je pense que c'est incroyable d'avoir une intention claire et d'avoir des rêves et des objectifs. Et il faut absolument aligner tout ça dans ce sens. Mais si tu continues à te heurter à un mur ou à tomber dans le fossé, il faut prendre un pas de recul et prendre une nouvelle direction. Et ce qui est vraiment important, c'est de garder les yeux ouverts sur où l'eau coule naturellement dans notre vie. Qu'est-ce qui vient facilement ? Quelles sont les choses que vos amis et votre famille vous disent que vous faites naturellement et que vous ne réalisez même pas ? Une grande partie du génie de chacun est une chose que nous ne voyons même pas. Parce que ça vient si naturellement pour nous qu'on pense que tout le monde possède cette compétence. Mais ce n'est pas le cas. Donc une des meilleures choses à faire, c'est de parler à sa famille ou à ses amis. Enfin, ça dépend de quelle est la relation avec vos parents, il ne faut pas qu'ils critiquent trop non plus. Et de demander du coup en quoi je suis bon. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai honte de le dire, mais je pense que les mères savent mieux. Elles savent vraiment ce qui se passe avec leurs enfants. Elles sont connectées comme une antenne. Et je pense que ce qui est bien aussi, c'est de parler avec les gens dans ta vie, pas de manière réactive, mais simplement de s'asseoir, de prendre un café et de demander « Hey maman, en quoi je suis bon ?» Et on peut utiliser ça avec tout le monde. Et puis il est très important de lâcher prise et de sortir de cette lutte, de ce besoin d'être d'une certaine façon ou de juger les choses.
Needing things to be a certain way or judging things and blah 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 blah. Once you sort of relax,
une fois que tout ça s'est un peu détendu, on constate que on ouvre son cœur davantage et qu'on commence à faire des choses qui nous enthousiasment vraiment et qui sont vraiment votre passion. Et qu'on peut commencer à créer des projets et des idées à partir de cet endroit de calme. Et c'est incroyable le pouvoir et l'énergie qui en découle. Donc, ce que vous faites maintenant, c'est plus facile? Non, pas vraiment. Alors, tous les ans, je fais une sorte d'auto-évaluation où je me demande qu'est-ce que je dois changer. Parce que la croissance personnelle se fait par couches. C'est littéralement comme si je devais éplucher un oignon et que j'obtiens un nouveau niveau de conscience. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que mon business a tellement évolué en 8 ans. Donc comme je t'ai dit, j'ai commencé dans le vintage. Et c'est là que j'ai un peu heurté un mur. Et on avait besoin d'un nouveau business model. On n'est pas devenu une collection de mode du jour au lendemain. Non, j'ai fait une robe, un shirt, un pantalon, et je créais du contenu pour les autres marques parce qu'elles ont vu ce que je faisais pour Double J, et elles ont adoré ça. Donc tout à coup, je me suis mis à travailler pour Armani, Missoni, Etro, Pomolato, des grandes marques qui ont vu ce que je faisais à Double J et sur mon site en 2015, et qui ont adoré ça. Parce qu'elle n'avait pas encore évolué. Et c'est ce que je dis. Je n'aurais jamais imaginé créer du contenu pour eux. Parce qu'au début, j'ai essayé beaucoup de choses très différentes pour voir là où ça pouvait décoller. Donc non seulement je faisais du contenu et je vendais du vintage, j'ai commencé à faire les habits et on a commencé à faire de l'art de la table. Et donc parmi tout ça, on a essayé de voir qu'est-ce qui avait une sorte d'énergie, qu'est-ce qui bouge. Et puis, quand on a trouvé, on mettait plus de temps et d'énergie là-dessus. Donc au début, ce n'était pas exactement ce que je voulais, mais c'était plus voir avec quoi le client et le marché résonnaient. Qu'est-ce qui avait une sorte de connexion ? Et donc j'ai juste planté ces graines. Et ce qui s'est passé en 2020, quand on était tous à la maison pour le Covid, tout s'est arrêté, mais mon entreprise continuait à grandir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de toutes mes pratiques spirituelles, les guérisseurs, les professeurs, les techniques qui ont été très importantes pour moi. Et toi, tu fais ça depuis longtemps déjà. Alors, je fais du yoga depuis plus de 20 ans, mais j'ai commencé cette pratique spirituelle en 2014 parce que j'avais des difficultés à tomber enceinte et j'ai fini par voir un guérisseur énergétique parce que j'ai eu ce très long processus d'infertilité qui était très perturbant à bien des niveaux et qui m'a laissé très très vide. J'étais très déprimé, j'étais en colère. Je savais donc que je devais changer quelque chose. Donc à partir de 2014, j'ai commencé à travailler avec ce guérisseur. Et à partir de là, toutes ces autres portes ont commencé à s'ouvrir pour moi. Et d'ailleurs, très peu de temps après, j'ai donné naissance à une entreprise. C'est très intéressant de voir comment une fois que j'ai commencé à aborder ces autres aspects en moi qui étaient bloqués, en travaillant sur le deuxième chakra, qui d'ailleurs pour la femme c'est l'utérus, pour l'homme c'est la prostate, non seulement c'est le centre de notre sexualité, mais c'est aussi le centre de notre créativité et des créations. C'était donc très intéressant de travailler là-dessus et de commencer à le débloquer. Et je faisais tout ça sans en parler au travail, ni à aucun de nos clients. Mais quand j'étais à la maison en 2020, j'avais cette éditrice à l'époque qui m'a dit « Je pense que tu devrais faire ce genre de contenu et de se connecter à Instagram et de commencer à donner des conseils aux gens. » J'ai donc commencé à faire ces vidéos sur Double G et sur mon compte personnel. Et ces vidéos ont vraiment commencé à résonner avec les gens. Et puis on a commencé à donner des ateliers en ligne dans lesquels j'invitais différents guérisseurs et professeurs qui étaient des amis et des personnes avec qui j'ai travaillé. Et c'était gratuit. Et on offrait ça à notre communauté. Et nous avons commencé à réaliser que la même femme qui venait nous voir pour la robe imprimée, elle voulait en savoir plus sur la méditation, sur l'activation de l'ADN divin et l'école des mystères égyptiens. Elle était très curieuse de toutes ces choses. Et donc, si tu me poses la question de comment j'ai su ce que je voulais faire, il m'a fallu du temps pour mettre en place les fondations de l'entreprise, pour qu'elle soit en sécurité. Je considère toujours l'entreprise comme une sorte de bébé, elle doit être en sécurité. Elle va au lycée, elle a ses babysitters, elle a ses amis. Et maintenant, maman peut sortir et parler de tous ces trucs. Et c'est vraiment drôle parce que ce que je trouve, c'est qu'en fait, la Double G aide vraiment à soutenir toutes ces activités spirituelles d'augmentation des vibrations que nous faisons. Parce que les femmes ont tendance à me considérer comme plus normale, parce que je suis dans les magazines ou je vais à des défilés de mode, elles ne me considèrent pas comme cinglée, une hippie granola ou une folle. Ce que je suis probablement d'ailleurs. Mais en même temps, comme je vends de la mode, elles me considèrent plus comme un standard et approuvé par le mainstream. Et donc ça aide à créer des ponts. Et tout ça est très authentique, je ne vends rien, je parle d'une expérience pratique et j'aide les gens à faire ces connexions et ces découvertes qui m'ont été très utiles. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre Calvin Klein et Milan et comment tu t'es retrouvé à Milan? Je suis tombé amoureux d'un Italien. C'est très cliché. J'étais à une soirée à New York et je travaillais chez Calvin. La fête était organisée par le fils de Renzo Rosso, que je ne connaissais pas. Mes amis m'ont amené à cette soirée et mon futur petit ami était là parce qu'il était consultant pour Diesel à l'époque. Toute la fête était italienne. Lui et moi, personne ne nous a présenté, mais on a commencé à parler et voilà. Ensuite, on a commencé à sortir ensemble, à distance, et puis 11 mois plus tard, j'ai déménagé à Milan. Et tu es aussi tombée amoureuse de Milan ? Non, je détestais Milan. Pendant 5 ans, c'était beaucoup de frustration et de colère. Je ne pouvais pas participer, je ne pouvais avoir aucune activité sociale parce qu'il parlait toujours italien et je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Alors je prenais des cours, mais j'avais du mal à maîtriser la langue. Alors je n'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, je ne pouvais pas faire d'exercice. Comme le yoga, j'étais une joggeuse. Il n'y avait pas de place pour faire du jogging à Milan. Je me souviens que les gens me regardaient dans la rue comme si je courais nu. Pour eux, c'était inouï d'aller courir dans la rue ou d'aimer faire ça en 2001, dans les rues de Milan. Il n'y avait pas de yoga. Même la nourriture, j'ai toujours été végétarienne. Beaucoup de légumes, de salades, toutes ces choses. Et Milan, c'est la viande, les pâtes. Même les films étaient doublés. Tout m'énervait. À chaque fois que je voulais sortir, acheter quelque chose, le magasin était fermé, les files d'attente à la banque, la bureaucratie, tout était très lourd. Peut-être pour quelqu'un qui est français, ce n'est pas si grave, mais je viens de New York. Oui, il n'y a pas une si grande différence entre un Français et un Italien ou un Américain et un Italien.
From New York to Milano.
C'était très dur, et ce n'est pas comme si j'avais déménagé au milieu de nulle part. Dans ma tête, je pensais avoir déménagé dans la capitale cosmopolite de la mode. Pourquoi le guichet automatique ne fonctionne pas ? Et pourquoi je dois attendre 3 semaines pour avoir de l'argent ? Et pourquoi quand j'ai une fuite d'eau, je ne peux pas faire venir un plombier avant 6 jours ? Ce genre de choses, tout ça me rendait folle. Alors pourquoi es-tu resté ? Eh bien, je suis très tenace. Tu vois ce que je veux dire ? Je m'accroche à quelque chose et je ne lâche jamais. Donc ça, c'est premièrement. Je suis très têtu. Je suis taureau. Et troisièmement, je pense qu'il y avait une partie de moi, au plus profond de moi, qui comprenait que c'était une belle opportunité et que je la gâchais en étant si négative. Et quel a été le changement ? Alors le changement, je l'ai écrit dans le livre, c'était ce jour où j'étais à la banque, j'étais encore une fois dans la file d'attente, et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi je devais aller à la banque tout le temps ? C'était très bizarre, je passais environ une heure à la banque chaque semaine. Je me souviens m'être levé auprès du caissier, très très énervé. Et je lui ai demandé, pourquoi vous parlez à la personne en face de moi de ses vacances? J'étais très en colère. Je veux juste faire ce que j'ai à faire. Et il m'a répondu, si on ne se parlait pas, on n'apprendrait pas à se connaître. La semaine suivante, j'y suis retourné, toujours en colère. Et il a sorti un sac avec des haricots verts de son jardin. Et il me les a offerts. C'était incroyable. Le caissier de banque vient de m'offrir un cadeau de son jardin. Et ça m'a brisé le cœur. Et j'ai réalisé que j'avais été très misérable et ingrate. Et que je n'avais pas vu l'humanité des gens en Italie, qui sont, oui, souvent plus lents, pas très organisés. Ils ne font pas autant de choses éblouissantes dans leur vie de tous les jours, mais ce sont des êtres humains tellement merveilleux. Et j'ai vraiment reconnu que mes yeux n'étaient pas ouverts sur ce qui se passait. Et soudain, j'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis dit, mais mon Dieu, cet endroit est magnifique. Il y avait de la beauté partout où que vous alliez. Je me suis rendu compte que j'avais été aveugle parce que la minute où on commence à juger quelque chose, on se ferme à toute autre possibilité. Il faut faire très attention au jugement. Ça, c'est une très grande leçon. Souvent, c'est une leçon difficile à apprendre. Il faut juste en faire l'expérience. C'est quelque chose de très frustrant chez les êtres humains. Ce n'est pas comme si on pouvait juste avoir une puce insérée dans notre cerveau et être différent. L'expérience humaine nous oblige à abandonner, à se rendre. Il faut être rempli de tellement de frustration face à une façon de vivre que ça nous rend prêt à autre chose. C'est presque comme un changement au niveau cellulaire dans notre cerveau. C'est vraiment étonnant de voir ce qui pousse un humain à changer de comportement. Et donc tu arrives à Milan, tu as un petit ami. Oui, il travaillait tout le temps. Tout le temps. Et je ne savais pas cuisiner, ce qui est un énorme problème, parce qu'il n'y avait pas de nourriture à emporter. J'ai appris l'existence des rosticcerias 5 ans plus tard. Il y avait un endroit où il y avait du poulet rôti et tous ces légumes. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de la rosticceria ou des endroits gastronomiques ? C'était vraiment, tout était à l'envers. Et donc tu faisais quoi pour vivre à l'époque ? J'ai trouvé un travail en tant que journaliste. Alors, j'étais à un défilé de mode. Comment tu es arrivé dans un défilé? Parce que mon copain de l'époque était consultant pour des marques de mode, et donc de temps en temps, on était invité à un défilé de mode. Bon, là, ce n'était pas un grand défilé, c'était une présentation à l'hôtel Deanna, j'étais au bar, et il y avait ce type, Godfriedini, avec qui j'ai commencé à parler. C'était un Irlandais hilarant qui avait été auparavant chef du bureau de la mode féminine à Paris. Et il était rédacteur en chef de ce nouveau service d'information sur la mode en ligne appelé Fashion Wear Daily. Et il cherchait un reporter à Milan. Et je me suis dit, j'étais étudiant en rhétorique à Berkeley, j'adorerais travailler pour toi. Alors tu vois ce défilé de mode que tu viens de voir? Écris et envoie-moi demain un brief et on en parlera. Alors je l'ai fait et il m'a embauché. Et le lendemain, il m'a envoyé un nouveau défilé de mode et je n'oublierai jamais, c'était Neil Barrett, vêtements pour hommes. Et j'ai été embauché. Et puis à partir de là, donc ça c'était en 2001 quand il n'y avait vraiment pas grand chose sur l'internet. Et aucune de ces marques de mode n'avait eu l'idée d'avoir des sites web. Je pense que Gucci avait un site et quelques autres marques, mais pas beaucoup. La plupart n'avaient pas de site. Je ne pouvais pas obtenir d'invitation au défilé de mode parce qu'ils pensaient que je mentais. Et je devais écrire sur tout, pas juste sur les défilés de mode, mais aussi sur les rapports des résultats d'entreprises publiques, des rapports sur les ouvertures des magasins, ou pour dresser le profil des créateurs. C'était très difficile parce que je n'avais pas de réputation. Les magazines en ligne n'avaient pas de réputation, c'était très dur. Donc la première année, j'ai vraiment eu du mal, mais il y avait un côté positif, c'était qu'il y avait une personne qui lisait ce que j'écrivais, et c'était Suzy Menkes. Elle connaissait Godfrey, elle était assez intelligente pour savoir que nous faisions beaucoup de reportages qui sortaient avant elle. Donc elle vérifiait nos articles pour voir s'il n'y avait pas des nouvelles de dernière heure, et donc comme ça, elle a appris à me connaître, à reconnaître ma signature, et elle faisait toujours ce genre de commentaires, « Oh, j'aime cette histoire sur Alberta Ferretti » ou quoi que ce soit. Et puis après environ un an, elle m'a demandé d'écrire pour elle au Herald Tribune. Donc tu as pu travailler directement avec elle. Et qu'est-ce que tu as appris d'elle ? J'ai appris beaucoup de Suzy. Elle est diligente. Elle a une approche très complète. Elle voit tous les shows, toutes les présentations dans chaque ville. Et c'était incroyable pour moi de voir comment une professionnelle comme elle faisait par rapport à tous les autres journalistes en Italie qui allaient à une conférence de presse et prenaient littéralement le communiqué de presse et le mettaient dans leur article. Elle pensait à tout. Elle a toujours encadré les choses dans le cadre de ce qui se passe dans la mode en général, dans le monde de l'événementiel. Qu'est-ce que ce designer a? Quel est son parcours? Comment ils ont évolué? Donc des articles avec beaucoup de réflexions et des opinions, pas juste régurgitées. Oh, il y a des fleurs partout pour le printemps cette année. Elle donnait vraiment un point de vue critique. Et elle avait son point de vue et elle critiquait, mais elle était très rarement méchante. Ça m'a toujours semblé juste. Et puis ce que j'ai appris de Godfrey, parce que j'ai beaucoup appris de ce type, je n'ai jamais vu un journaliste capable de faire fondre quelqu'un devant lui. Parce que ce qui arrive si souvent dans une interview, surtout si vous êtes un jeune intervieweur et que vous interviewez Giorgio Armani ou quelqu'un comme Gene Sander, on peut être un peu nerveux lorsqu'on lui pose des questions. Godfrey, lui, avait la capacité de rendre immédiatement la personne très confortable. Il les faisait rire, il leur dirait quelque chose de très personnel, et il se souciait vraiment de la question qu'il posait. Et ça mettait la personne dans de très bonnes dispositions, peu importe sa renommée ou depuis combien de temps elle était dans la mode. Donc j'ai eu deux excellents mentors à cet égard. Est-ce que ça te plaisait ?
Non.
Alors, c'est très drôle parce que après j'ai été embauché à Harper's Bazaar pour être leur éditeur européen. Et d'un côté, j'étais très contente d'avoir la reconnaissance de travailler pour un grand nom comme Harper's Bazaar. Mais je n'aimais pas tellement travailler seul. Je travaillais seul à la maison, sauf lorsque j'étais sur le plateau lors d'une séance photo, ou lors d'une interview, ou pendant les Fashion Weeks. Je trouvais ça très solitaire et j'avais envie de plus d'interaction avec les gens. Et maintenant, c'est très drôle parce que si je pouvais travailler à domicile en ce moment, je donnerais 1 million d'euros. C'est drôle de voir comment on obtient ce qu'on veut et ensuite on se dit je peux plus supporter ça. Donc tu as fait ça pendant combien d'années ?
15
ans. J'ai été journaliste pendant 15 ans. Même 17 ans parce que j'ai arrêté Wallpaper, le dernier travail que j'ai fait. Et j'ai abandonné ça en 2017. Donc oui, ça fait 17 ans. Donc pendant 15 ans, tu as été journaliste. Et puis qu'est-ce qui se passe après ? Tu peux revenir sur la genèse de la Double J ? Pourquoi tu l'as commencé et comment ça s'est passé ? J'avais cette énorme collection de vêtements et je me demandais quoi faire avec ça. Et en fait, c'était mon mari. On s'est mariés en 2005. Et on a divorcé il y a 4 ans maintenant. Maintenant, c'est mon ex-mari, mais c'est aussi mon partenaire commercial. Et à l'époque, mon ex-mari avait plusieurs entreprises qui l'aidaient à mettre en ligne du pur e-commerce.
Okay.
Et c'est lui qui m'a dit, tu sais, tous ces bijoux vintage que tu as, je suis sûr que tu peux les vendre en ligne. Donc c'est lui qui m'a mis cette idée dans la tête. Et puis j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit, si je fais les bijoux, je fais aussi les vêtements parce que c'est plus une question de vêtements. Et si je fais le site, je ne vais pas le faire comme le site qu'il faisait pour Geox ou Aspici ou Quesaday ou Dolce Gabbana. Je voulais que ça ressemble à un éditorial, que ça ressemble à l'Italie. Et que ça montre comment vivre comme un Italien, ce que j'ai appris au fil des années. Et c'est de cela dont parle mon livre. Et je voulais en parler. Donc c'est devenu non seulement un site web de vente et de commerce, mais c'est aussi devenu une sorte de magazine éditorial.
Ok.
Donc, j'aimerais revenir sur les étapes marquantes de la marque, ce qui s'est passé ces 9 dernières années. Donc au tout début, tu vendais du vintage et ensuite, tu voulais vendre plus, donc tu produis une robe. Oui, en 2016, j'ai fait une robe, une chemise et une jupe. Puis en 2017, on a fait une vraie collection. C'était petit et du vintage encore. Et puis, on a introduit en 2017 les articles ménagers. Et ça aussi, c'est venu de manière très aléatoire. Donc, on a commencé à diversifier nos produits en 2016. Donc, juste au bout de 2 ans et demi, vous avez commencé à vous diversifier. C'est très tôt. Oui, parce que je suis très sensible à ce qui se passe énergétiquement. Donc j'ai pu sentir quand les choses avaient du momentum derrière elles, et puis quand les choses étaient un peu lentes. Et puis quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est incroyable de voir comment les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Donc Pomellato est une de ces marques qui est venue me voir parce qu'elle voulait travailler avec moi, et m'ont dit qu'ils aimaient le travail que je faisais avec toutes ces femmes italiennes locales. Et ils voulaient organiser un événement pour nous. Et on a invité toutes ces femmes avec qui on avait travaillé auparavant. Et pour ce dîner que nous avons organisé, on a mis en place toute une installation très axée sur l'imprimé. Et on a imprimé des nappes, des serviettes et des assiettes vintage. La décoration de table était si inspirante qu'on s'est lancé nous-mêmes dans les arts de la table. Donc, c'est intéressant de voir que cet événement Pomellato est ce qui a enclenché ça. Et donc, en 2017, on a commencé, et tout comme pour le prêt-à-porter, lorsqu'on a commencé à confectionner les nouveaux vêtements, on s'est associé à Mantero Seta, un fabricant de soie très historique du lac de Côme, qui possède des archives incroyables d'imprimés vintage. Et l'une des choses que j'ai faites dès le début avec Double J a été d'établir des partenariats avec des marques italiennes. Donc pour le verre, on produit du verre de Murano avec Salviati qui existe depuis les années 1860. On confectionne du soie avec Mantero qui existe depuis 120 ans. On fabrique nos assiettes à Vérone avec une marque appelée Ancap. Donc tout ça s'est passé dans les années qui ont suivi, donc 2017-2018. Et je faisais des boutiques éphémères aussi. Donc assez tôt, hein, dès 2018, on a fait une boutique à Balmarchais. Il y avait Bergdorf Goodman, on a fait Liberty et Londres. On commence petit comme ça, on fait des petites boutiques éphémères et maintenant on est en 2024. Et au lieu de boutiques éphémères, on crée des magasins qui durent 3 ans et non 3 mois. Alors maintenant, ce que nous avons à la Samaritaine est un magasin à long terme, tout comme celui que nous avons à Fondo Cody et à Tedeschi à Venise. Et on en a ouvert un au printemps dernier en Espagne. Donc en quelque sorte, on fait ces petits pas
reach out. And at the beginning, I never really thought that we were going to do so much.
Et au début, je ne pensais pas qu'on allait faire autant de ventes en gros parce qu'on voulait davantage être une entreprise directement destinée aux consommateurs. Et au début, tous nos produits étaient fabriqués dans les plus grandes usines de luxe d'Italie, mais nos prix sont restés très très bas. On a une très faible marge parce qu'on voulait aller directement aux consommateurs. Mais on s'est rendu compte qu'en commençant avec sa propre entreprise, il faut parfois faire des concessions. Et on s'est rendu compte que le commerce de gros nous aidait beaucoup avec la visibilité pour toucher un public différent. Donc même si on ne gagnait pas beaucoup d'argent avec, ça avait vraiment une utilité. Et donc, vous avez doublé vos prix ? Non, on ne l'a pas fait. On est toujours au même prix, un prix juste. Et c'est très important pour moi. Oui, c'est un prix juste, mais vous ne faites pas beaucoup de marge avec le gros. Avec les grossistes, non, on ne fait pas beaucoup de marge. On réalise une marge nettement inférieure à celle de la plupart des entreprises de mode. Mais on ne perd pas d'argent. Alors au tout début, combien d'argent vous avez mis dans l'entreprise ? Désolé, je ne peux pas te répondre. J'ai mis de l'argent, mon mari a mis de l'argent, mais on n'a jamais eu d'investisseur extérieur. Une des choses que mon mari faisait, parce qu'il était consultant en gestion, à table, il me donnait des conseils sur la gestion de l'entreprise, parce que c'était moi qui dirigeais, et lui, il conseillait. Il me disait, écoute, si tu ne réalises pas de bénéfices la deuxième année, bah, la plupart des entreprises non plus. J'avais mis donc un peu d'argent, pas un investissement énorme, c'était environ 100 000 dollars ou quelque chose comme ça, mais la plupart des gens reçoivent des millions de capitaux dès le lancement. Donc, ce que j'ai fait au début, c'est que mon temps était gratuit. Je payais les gens que j'avais besoin de payer et tout le monde était indépendant. Et j'essayais de m'associer avec des personnes qui pourraient également bénéficier du projet en lui-même. Le photographe qui a d'abord travaillé pour nous et qui m'a vraiment aidé, Alberto Zanetti, c'est un formidable photographe et portraitiste à Milan. Il me disait, JJ, j'adore ce projet parce que tu me donnes tellement de liberté. Je suis très heureux de te faire les portraits gratuitement. Juste paye-moi mes frais. Et puis il a construit ce portfolio incroyable qu'il voulait vraiment, qui correspondait tout à fait à sa vision, et il avait une liberté totale. C'est donc ça le genre de relation qu'il est parfois important de développer. En collaborant avec d'autres marques, il faut être prudent. J'essaie toujours de collaborer avec quelqu'un qui pourrait m'apporter de l'argent ou de la visibilité. Et ce que nous leur apporterions, c'est une créativité sauvage, bizarre, amusante et joyeuse, ce qu'ils ne faisaient peut-être pas autant d'eux-mêmes. Avec Mantero, par exemple, on a eu accès à leur archive gratuitement parce que je leur faisais de la publicité en utilisant leur nom et en racontant leur histoire sur l'étiquette parce que je pensais que c'était très intéressant que toutes ces imprimés venaient de leurs archives et étaient réédités en quelque sorte. Et puis ça nous donnait l'opportunité de parler d'eux. Donc selon toi, quels ont été les éléments clés qui ont fait que ça a fonctionné ? Parce que vu de l'extérieur, ça a l'air d'être une histoire magnifique depuis le premier jour. Écoute, de l'extérieur, tout a toujours l'air extraordinaire. Mais c'est toujours difficile. Mais si je regarde en arrière, oui, effectivement, c'est une belle réussite. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu du sang, de la sueur, des larmes, des cris, toute cette situation. Je veux dire, c'est très difficile d'avoir sa propre entreprise parce qu'en fin de compte, tous les problèmes reviennent vers toi. Et ce n'est pas seulement une question de finances, ce sont des problèmes émotionnels, les maladies des gens, tout vous revient. Et c'est très délicat de constituer ces équipes, surtout parce que l'équipe que tu as besoin quand tu passes de 0 à 3 millions est très différente de celle dont tu as besoin quand tu passes de 5 à 15 millions. Ce sont des compétences totalement différentes dont on a besoin. Et puis tu ne sais même pas ce dont tu as besoin, tu l'apprends au fur et à mesure, et ça peut être très douloureux. Mais le secret, c'est de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Tout est bon, tout va bien. Mais il y a aussi des gens comme Christina, qui est avec moi depuis très longtemps. Il y a certaines personnes qui ont réussi. Ou alors quelqu'un comme Viviana Vulpicello, qui était ma directrice de mode lors de mon premier lancement. Elle est partie pendant 5 ans et maintenant elle revient faire du stylisme pour nous. Donc ça aussi c'est très intéressant quand les gens vont et viennent dans le giron, et c'est vraiment incroyable. Quels ont été les moments les plus durs? Est-ce que vous avez été à la limite de la faillite? Non, on a eu de la chance. Mais mon ex-mari était un peu parano à l'idée de ne pas dépenser trop d'argent, au point qu'il était difficile de recruter des gens. Je ne pouvais pas faire appel à un chasseur de tête. C'était toujours moi qui appelais 6000 personnes jusqu'à ce que je trouve quelqu'un. Donc, on était vraiment en sécurité concernant l'argent, on ne dépensait pas trop. Et heureusement, pendant le Covid, on était sur cette énorme trajectoire jusqu'en 2018 et 2019. On était en pleine croissance et en 2020, on a grandi de 20%. C'est beaucoup pour le Covid. Et l'année suivante, on a encore augmenté de 20%. Il y avait beaucoup d'élan, beaucoup de momentum. La marque avait du jus. Le plus difficile pour moi n'est pas que la marque elle-même va s'effondrer, c'est plus les employés, la structure avec laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout pour trouver les bonnes personnes au bon poste. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ces gens personnellement, mais la plupart d'entre eux ne sont pas faits pour travailler dans une start-up. Et ceux qui sont faits pour travailler dans une start-up ne sont pas équipés pour travailler avec les autres parce qu'ils sont habitués à travailler seuls. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la partie la plus délicate que j'ai eue, parce que juste au moment où je pense avoir trouvé quelqu'un, quelqu'un d'autre démissionne, ou quelqu'un a un bébé et part pendant un an et demi, en Italie, ils font ça, ils partent un an et demi. Alors, je suis ravi que ces personnes deviennent mères, mais en tant que propriétaire d'entreprise, c'est vraiment difficile dans une petite entreprise si j'ai une personne senior qui disparaît soudainement pendant un an et demi. C'est vraiment un défi. Comment je vais trouver quelqu'un pour remplacer? C'est donc ce genre de choses que j'ai trouvé très difficile. Mais l'entreprise elle-même a toujours maintenu son dynamisme et sa solvabilité surtout. Oui, et comment rester attractif en tant que marque? La mode, c'est une question d'attractivité, il faut être sexy. Et je pense que c'est la chose la plus difficile dans la mode. Tout le monde a du mal à rester pertinent et à rester attractif. Comment tu fais pour y parvenir? Je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas, oh mon Dieu, il faut être pertinent. Je pense qu'il faut vraiment créer des produits qui me tiennent à cœur, jusqu'à ce que moi-même j'en ai marre de ce que nous faisons et qu'il est temps de passer à autre chose. Et je pense que la façon d'y parvenir, ce n'est pas d'être des robots, mais d'être des êtres humains. Par exemple, qu'est-ce qui nous passionne vraiment ? J'utilise beaucoup mes copines et leurs retours. Je reçois tout le temps des commentaires des clientes. J'entre dans le magasin, je vois comment les femmes réagissent. Christina avait un client ici qui aimait les choses de cette façon et ça me fait penser à ça. Il s'agit vraiment d'être avec d'autres êtres humains et de voir comment ils réagissent. Je pense que c'est ainsi que nous procédons. Et quel est ton processus créatif d'ailleurs? Le chaos? Non, mon processus créatif, c'est partout où je vais, je prends des photos. J'ai 600 000 photos dans ce téléphone, j'envoie toujours des photos de motifs, de formes, des intérieurs qui m'inspirent, à toute mon équipe créative, Donc il y a des créateurs d'articles, des designers de mode, de maison, des directeurs artistiques. On commence par ça. Et puis ma directrice de design viendra me voir. On doit commencer à penser à la prochaine collection. Donc je pense, j'étais juste à Florence, pourquoi pas la Renaissance ? Je pense vraiment à la Renaissance. Et elle, elle me dit pas question, elle me dit « Ah, moi aussi j'ai pensé à la Renaissance l'autre jour, bah super, alors on fait ça. » Et donc ce qui s'est passé entre elle et mon gars des articles ménagers, ils sont descendus à Florence avec cette histoire de « Faisons la Renaissance ». Et ils ont eu toutes ces réunions et ils sont revenus avec environ 600 photos. Donc ça, c'est la phase du mood board. Et ensuite, je regarde tous les mood boards et je dis « J'aime ça, j'aime ça ». Et en même temps, je parle toujours à l'équipe de merchandising et à l'équipe de conception de ce dont nos clients ont besoin maintenant. Mais ça se produit toute l'année. Mais c'est pas comme si on avait des réunions prédéterminées, les idées me viennent au milieu de la nuit et j'en parle aux gens concernés. On reçoit les commentaires sur les produits tout le temps. Quelqu'un organise toutes ces informations qui reviennent parce que lorsqu'il est temps de redesigner une collection, on verra ce qu'il nous manque. Et là, on regarde toutes les silhouettes sur lesquelles on a travaillé, lesquelles ont plu aux gens, et on regarde ce qui nous manque. Est-ce qu'on a fait beaucoup de robes courtes? Est-ce qu'on a fait la robe courte sexy? Non, on ne l'a pas fait, donc on fait ça cette saison. Donc on commence à travailler sur les silhouettes, on développe les modèles. On a un designer d'impression dans la maison. On utilise également des imprimés vintage comme source d'inspiration. Parfois, on regarde des livres et puis on travaille avec Mantero, qui est notre fabricant. Il nous envoie tous ces incroyables imprimés que nous aimons dans environ 40 variations de couleurs différentes pour que je puisse voir un panel important de variations. Et tout est très intuitif. Ce n'est pas très rationnel ou logique au début. Ce sont des sensations. Puis on commence à faire des croquis. Et puis on se dit, voilà, ces tissus ou ces groupes, comment on va utiliser tout ça pour raconter une histoire?
Et tu fais exactement la même chose pour les arts de la table? Oui, alors évidemment, on en a moins car on fait 2 drops par an. Et 4 drops pour le prêt-à-porter. Mais on a aussi des capsules spéciales. On va faire quelque chose pour Net-à-Porter bientôt et tout ça. Donc 4 collections par an, 6 au total. Avec combien d'articles dans chaque collection? Pour les SKU, c'est généralement un peu moins de 200. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui, c'est beaucoup. Oui, alors moi aussi j'ai une marque. Ah bah tu peux m'en parler. Réuni, c'est une marque de prêt-à-porter réservée aux femmes. On fabrique un article à la fois. On a fait un cardigan, un tricot, un jean, on a fait une chemise, etc. Et on est presque arrivé à 1 million d'euros. Et ma question, c'est comment on passe de 1 million à 5, par exemple, ou à 10? Donc, je pense qu'au début, dans cette toute première phase, il faut vraiment se concentrer sur le véritable objectif, c'est-à-dire la connexion avec le client. Alors, ce que je ferais, si tu ne fais que des pièces uniques, ton jean doit être le meilleur putain de jean possible. Donc, ton cardigan doit être le meilleur cardigan que tu connais. Il doit vraiment y avoir un but derrière tout ça et un sentiment de connexion avec quelqu'un, que ce soit des vêtements pour femmes, donc ce sera avec les femmes. Personnellement, je travaille avec ma femme. Donc ta femme doit vraiment tomber amoureuse de ton produit. Et à partir de là, voir avec des individus. Si un projet a une réelle viabilité, les gens le sentiront et seront attirés par ça. Et tous les projets ne sont pas aussi attirants. C'est quelque chose à considérer.
tous les projets ne fonctionneront pas, et c'est important. C'est important de se donner le temps, 2 ans, 4 ans, peu importe, mais aussi avoir la conscience qu'il faut pivoter vers autre chose si ça ne marche pas. Parce que je te garantis que lorsqu'on travaille de manière créative, d'où viennent les opportunités, par exemple? Il faut regarder autour de soi et voir ce qui attire les gens. Il faut rester ouvert à toutes les possibilités. Mais avec la mode, il faut avoir ce genre de choses animées qui connectent avec les gens. Et ça peut commencer sur une très petite échelle. Hein. Peut-être ta femme et ses 6 amis, mais tout le monde est obsédé par le produit. Et ça se sent quand les gens sont obsédés par quelque chose. Les autres le sentent. Un journaliste, par exemple, qui veut écrire sur ça, il va le sentir. Et donc, pour revenir sur Double J, quel est le projet maintenant pour ta marque? Je pense maintenant qu'on se concentre vraiment pour ouvrir davantage de commerces. On souhaite ouvrir un magasin à New York et à Los Angeles. Donc, c'est la prochaine étape importante, c'est le développement du commerce. J'aimerais beaucoup explorer les accessoires, parce qu'on ne fait pas de sacs ni de chaussures encore. Et ça pourrait être formidable, parce qu'on a commencé comme une entreprise de prêt-à-porter. Et ce qui est très intéressant, car la plupart des gens gagnent de l'argent avec les accessoires. Et je veux avoir mon équipe assez solide pour pouvoir porter davantage mon attention sur le développement de cette communauté de femmes qui nous rejoignent et qui s'intéressent à la prise de conscience, par exemple. Et j'adorerais en être le capitaine et faire travailler ça côte à côte avec le produit. Donc voilà, ça c'est un objectif. Et donc, j'aimerais parler de ces éléments énergétiques dont tu parles beaucoup toi-même. Si je suis vraiment débutant, par où dois-je commencer? Je trouve toujours que le meilleur moyen de créer une conscience de soi vient de la méditation. Il y a beaucoup de formes différentes de méditation. Certains de mes amis font une pratique de base de pleine conscience. Vipassana est une pratique un peu plus intense, mais il existe d'excellentes apps que tu peux utiliser. Il y en a une qui s'appelle Waking Up, qui comporte différents types de pratiques de méditation. Ce que tu veux faire, c'est commencer à entrer en contact avec toi-même en tant qu'être humain, c'est-à-dire un peu plus que juste ton corps physique et ton esprit. Donc, méditer est une bonne chose, un bon outil pour cela. Un autre outil que je trouve vraiment utile, c'est la guérison sonore avec des bols de cristal. Et l'autre qui est vraiment très utile, c'est le travail sur la respiration. Un travail respiratoire intense peut vraiment te faire sortir de ton esprit et te plonger dans une autre expérience. Donc plutôt que parler de ces choses, il vaut mieux en avoir des expériences physiques. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors je repense à la marque et c'est très intéressant de voir à quel point tu es spéciale, parce que tu es une Américaine qui arrive à Milan. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent ici, n'est-ce pas? J'ai 55 histoires différentes de nombreux astrologues qui m'ont dit que ça fait partie de mon thème et que j'étais supposé vivre une centaine de vies dans cette vie. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une centaine de vies. J'étais une fille de pêcheur et campeur. C'est très, très étrange. Alors, lorsque tu examines ta plateforme de marque, est-ce que tout cela n'est pas un peu compliqué? Oui, c'est désordonné, c'est le bordel, c'est sûr. J'ai l'impression que ma tête est en total désordre. Mais notre message principal chez Double J, c'est d'envelopper le monde avec de la joie.
Ok, that's what we do.
Wrap the world
in joy.
In joy, of course.
The joya. Joie. right? We just want to have joy.
Nous voulons juste créer de la joie. Et c'est si simple, et pourtant pas si facile. Et il y a tellement de façons de le faire. Une des façons les plus rapides, c'est le travail sur la respiration, le son, la méditation. Tout ça, ce sont des manières d'élever sa vibration. Et tu peux utiliser ces techniques si tu veux te lancer dans une entreprise spirituelle, ou alors tout simplement si tu veux juste te sentir bien.
Great. Go for joy. Go for play. Those are other ways as well. You're going to be a little bit less maybe conscious, but at the same time you'll have great effect. Like people who are naturally
les gens qui sont naturellement souriants, rieurs, faciles à vivre, indulgents, compatissants et miséricordieux, ce sont simplement des gens qui ont des hautes vibrations naturellement.
Right?
Quand j'ai déménagé en Italie pour la première fois et que j'étais négative à propos de tout, tout ça c'était des vibrations très faibles, ce n'était pas des hautes vibrations. Donc je pense qu'il y a une différence et j'ai dû apprendre à mes dépens d'ailleurs. Mais beaucoup de gens, si vous êtes plutôt du genre « Ah, je veux juste passer un bon moment, etc. » Je veux juste voir le bon côté des choses, et bien ça, c'est une merveilleuse façon d'y arriver. Mais en même temps, il y aura des moments où vous serez très triste, très en colère et effrayé. Et ça, ce sont les moments qui sont considérés comme ayant une vibration inférieure. C'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose à éviter. Ce que vous voulez faire lorsque vous ressentez ces sentiments, c'est d'en prendre soin correctement. C'est donc une autre façon, là tu me demandais, comment je peux commencer ce voyage pour élever ma vibration. Une grande partie de cela vient du contact et de l'acceptation et de la transformation de ton état émotionnel. Donc c'est un peu psychologique, mais c'est en grande partie énergétique. Et avoir confiance, avoir foi, avoir de l'amour, peu importe ce que vous ressentez en ce moment, ce n'est pas permanent, ça va changer. Et comment tu te sens maintenant? Alors, c'est intéressant parce que la semaine dernière, il s'est passé quelque chose au travail qui a été un grand choc. Quelqu'un part alors que je ne m'y attendais pas. Cette personne traverse une période difficile. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est plutôt que cette personne a des difficultés en ce moment. Et j'ai eu un week-end difficile à ce sujet et je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, tu sais quoi, ça va toujours arriver, tu vas toujours recevoir des balles courbes, je vais toujours me retrouver confronté à quelque chose de difficile et j'ai juste besoin de lever mon épée et mon bouclier comme un super-héros de Marvel. Et je vais pouvoir faire ça simplement en disant « Je vais bien, je vais m'en occuper, je vais garder mon cœur ouvert, je vais toujours aimer cette personne. » Et en même temps, hier soir, j'ai vraiment dû travailler sur ma peur à ce sujet. On ne peut pas arriver à ce lieu d'acceptation à moins qu'on évacue les émotions qui sont dans notre corps. Alors, quelle est la routine pour faire ça? Méditation tous les matins? Alors, ce n'est pas seulement de la méditation. Parfois, je fais ce travail de prière où j'appelle mes guides, mes anges, une sorte de conscience supérieure, des êtres de conscience supérieure pour m'aider. J'essaie de les retenir et de transmuter et d'entrer dans ce dialogue avec l'émotion. Et ce n'est pas mon esprit pensant. Mon esprit pensant s'est endormi, je me mets dans un état méditatif, et je me plonge vraiment dans l'émotion, car il y a une sorte d'information qui veut sortir. Alors, qu'est-ce que tu aurais fait différemment auparavant ? Je pense qu'auparavant, j'aurais été très réactive, et j'aurais dit, il faut faire ci, ça, 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 et je ne serais pas resté calme. Ce n'est pas toujours nécessaire d'être réactif, on n'est pas toujours obligé de tout changer immédiatement, de se mettre en colère contre la personne qui a peut-être fait quelque chose d'une manière qu'on ne l'aurait pas fait. Très bien, si tu avais la chance de parler à JJ quand tu avais 17 ou 19 ans, quand tu as perdu ton père, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que tout ce qui peut arriver de terrible dans la vie est là pour t'enseigner les plus grandes leçons. Alors il faut en profiter pour écouter ce qui se passe, prendre soin de soi et être doux avec soi-même. Très simple, merci beaucoup. Une dernière question, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Qui aimerais-je écouter ? Je choisis toujours des morts, comme Ramdas. Tu sais qui est Ramdas?
Ramdas?
Non. Il était à Harvard, c'était un psychologue, et puis lui et Timothy Leary ont commencé à donner du LSD aux étudiants. Donc ils étaient à l'avant-garde de l'expérimentation psychédélique. Et puis il a quitté Harvard et il est parti vivre en Inde. Et puis il est revenu en Amérique pour devenir une sorte de gourou, Ramdas. Donc très bien, bah merci beaucoup JJ. Désolé, il va falloir que tu le fasses revenir d'entre les morts. Je vais me débrouiller.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.